La décision a été prise de manière unilatérale par le président congolais, donc le président du processus de Kimberley. C'est une décision qui n'avait pas le soutien de tous les pays membres du processus. Donc le processus s'organise par voie de consensus. Donc la décision était légale, disons. Ce n'était pas la procédure à suivre. Donc ça soulève des questions très très graves sur l'intégrité du processus de Kimberley, sur le fait que, bon, est-ce que le processus est habilité à faire face aux pays qui ne respectent pas les règles, comme a été le cas avec le Zimbabwe. Donc ça soulève des questions très fondamentales et en tout cas les ONG sont en train de réfléchir par la suite pour voir si l'on peut continuer à participer et à soutenir ce processus.
Et comment vous expliquez cette marche arrière alors que justement le processus avait été un pas en avant dans la lutte contre les diamants sales ?
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a peut-être des failles au niveau de la structure du processus au départ. Donc c'est un processus qui met au centre, qui met comme acteur les gouvernements et non pas l'industrie diamantifère. Je pense qu'il faut réorienter l'objectif pour que ce soit vraiment les compagnies qui achètent, qui vendent, qui exportent les diamants, qui soient au cœur de l'action avec les gouvernements qui jouent un rôle de monitoring. Alors que là, c'est une situation qui devient très, très politisée. C'est des gouvernements qui doivent prendre des décisions par consensus. Donc, comme on l'a vu avec le Zimbabwe, il y a une sorte de fraternité sud-africaine qui s'est formée avec un soutien très politisé envers le Zimbabwe. Ça pose des problèmes au niveau de l'efficacité même du processus.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont ces mines de diamants au Zimbabwe?
Oui, c'est une zone diamantifère qui a été découverte relativement récemment, où on a commencé à exploiter relativement récemment, disons entre 2006 et 2008. En 2008, il y a eu des violences extrêmes avec des creuseurs artisanaux qui agissaient de manière informelle, avec l'armée qui est venue, qui a tué des centaines de personnes dans les champs diamantifères. Il y a des concessions, des compagnies conjointes entre le gouvernement du Zimbabwe et certains investisseurs étrangers qui ont été formés. Mais les structures derrière ces compagnies démontrent que c'est l'élite ZANU-PF, dont l'armée zimbabwéenne, qui bénéficie et les violations des droits humains continuent envers les creuseurs et les communautés dans ces zones diamantifères.
Est-ce que justement, il y a déjà des solutions qui se dessinent pour essayer de sortir de ce blocage?
Je pense qu'il est trop tôt encore pour dire. Là, on est dans une phase de réflexion, d'évaluation. Mais bon, en tout cas, pour parler de Global Witness, nous travaillons sur un très grand nombre de problématiques différentes liées à la gestion des ressources naturelles. Nous avons beaucoup d'expérience et je pense que nous allons faire valoir cette expérience sur cette problématique. Mais je pense qu'un des points importants, vraiment, c'est de responsabiliser l'industrie diamantifère. Je pense que c'est très difficile d'avoir une gestion efficace et transparente d'un commerce en ressources naturelles sans avoir comme acteur l'industrie diamantifère. Donc, par la suite, nous allons vraiment regarder dans cette direction-là, surtout en ce qui a trait aux diamants qui sont transformés, qui sont coupés et taillés et polis, parce que le processus de Kimberley ne couvre seulement les diamants à l'état brut.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique de résoudre ces problèmes ou ce dossier passe au contraire au deuxième plan?
C'est vrai que la volonté politique au niveau régional, pour vraiment pousser vers la transparence, pour tenir compte de violations, de violences qui sont commises par les forces gouvernementales, parce que ça c'est un des problèmes clés dans cette région, que ce soit dans les zones diamantifères du Marangé, que ce soit également dans les mines de diamants de l'Angola, bon, à l'est du Congo, on voit l'implication des militaires de l'armée congolaise dans le commerce en minerais qui financent le conflit. Certainement, je pense qu'il y a une réticence au niveau de ces gouvernements. Évidemment, c'est une question de volonté politique, mais on espère qu'en poursuivant ce travail, en poussant vers la transparence bon, au niveau régional, mais aussi international, on pourra arriver à des résultats plus positifs.